Bonjour à tous. En tant que parents, nous avons une grande responsabilité envers nos enfants. Si nous avons de jeunes enfants, nous devons les aider à accomplir de nombreuses tâches physiques. De plus, à mesure qu'ils grandissent, nous devons leur enseigner les aptitudes importantes pour la vie quotidienne. Des aptitudes dont ils auront besoin pour devenir eux-mêmes des adultes stables. Si nos enfants sont déjà grands, nous les aidons de différentes façons, notamment on les aide financièrement pendant qu'ils bâtissent leur carrière, en gardant nos petits-enfants ou simplement on était disponible pour répondre à leurs questions. Voilà. Parfois, si nous n'avons pas d'enfants, nous pouvons penser que nous n'avons pas ce genre de responsabilité, mais en fait, nous pouvons aider ceux qui sont plus jeunes que nous en tant que mentors, amis et conseillers. Et un principe clé pour les parents et les mentors se trouve dans le livre de Deutéronome. Il est décrit juste après un passage célèbre de la Bible que Jésus-Christ a cité lorsqu'il a identifié le plus grand commandement. Revenons, s'il vous plaît, à Deutéronome 6. À Deutéronome 6 et versets 4 et 5. Et lisons ensemble ce que Jésus a cité comme moyen d'introduire cet enseignement clé pour les parents et aussi pour les mentors. Deutéronome 6 et versets 4 à 5. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimerais l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Le plus grand commandement commence par la célèbre citation Schéma Israël, qui n'a aucun seul verbe, qui a un seul verbe en hébreu. C'est écrit « Écoutez, écoutez seulement Dieu. Il n'y a pas d'autre. » Mais que devons-nous écouter? La réponse est que nous devons écouter ces commandements qui sont décrits dans le chapitre précédent. Dans le chapitre 5 de Deutéronome, Dieu donne les 10 commandements. Et revenons à Deutéronome 6 et verset 1 maintenant, et lisons comment Dieu décrit cela ici. Il dit, « Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. » Puis, au verset 3, il est dit d'écouter et de mettre en pratique, afin que nous soyons bénis. Et Dieu seul, nous aimerons de tout notre cœur, de chaque fibre de notre être, comme il est dit au verset 5. Et puis au verset 6 et au 7, une responsabilité est donnée aux parents de partager ces choses avec leurs enfants. Il dit au verset 6, ici, à Deutéronome 6 et verset 6, il dit, « Et ces commandements que je te commande aujourd'hui sera dans ton cœur. Tu les enseignerais à tes enfants et tu en parlerais quand tu seras assis dans ta maison, quand tu marcheras sur le chemin, quand tu te coucheras et quand tu t'élèveras. » Quand nous regardons les petits-enfants, nous voulons ce qu'il a de mieux que eux. Nous voulons qu'ils évitent les erreurs que nous avons commises. Nous voulons que leur vie soit meilleure que la nôtre. Chaque année, à la fête des tabernacles ou juste après la fête, nous suivons l'exemple de Jésus-Christ et nous avons un ancien local qui bénit tous les nouveaux jeunes enfants qui n'ont pas été bénis auparavant. Nous suivons cet exemple de Jésus-Christ parce que nous voulons que nos jeunes enfants soient protégés, guidés et mis à part. Nous désirons que Dieu fasse preuve de miséricorde envers eux pour toute leur vie. Et pourtant, la vie n'est pas si simple. Nos propres faiblesses, les pressions de la vie, les accidents, les circonstances improuvées, quelle soit la réalité de ce monde, prendre le dessus. Et dans certains cas, les choses ne se passent pas comme nous le souhaiterions. Mais les promesses de Dieu tenaient. Comme il est dit au verset 18, à Deutéronome 6, verset 18, il dit, « Tu feras ce qui est droit. » Ici. « Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, » il dit, verset 17. « Vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, ses ordonnances et ses lois qu'il vous a prescrites. Tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, afin que tu sois heureux. » Enfin, que tu sois heureux. Aujourd'hui, je veux examiner l'instruction contenue dans Deutéronome 6, versets 6 et 7. Et si vous êtes un parent d'enfant de n'importe quel âge, écoutez bien. Et si vous n'êtes pas un parent, alors écoutez aussi, parce qu'il y a des parents qui n'ont besoin, qu'il y a des enfants qui n'ont besoin de vous. Et ces principes s'appliquent à la communauté en général. Et il est peut-être temps d'élargir votre perspective de l'amour et de service que vous pouvez rendre à nos jeunes. Il y a trois instructions spécifiques dans ce verset ici, et je les ai résumées sous le titre « Penser, enseigner et parler ». Aujourd'hui, nous allons explorer chacun des aspects de cet enseignement et nous les espérons repartir avec espoir en tant que puissés à l'action pour appliquer ce que nous avons lu. Le titre du message aujourd'hui est « Le rôle des parents, vivre, enseigner et partager ». Vivre, enseigner et partager. Commençons par le premier principe de ce verset. Vivre le commandement. Commençons par lire Deutéronome 6 et verset 6 encore une fois. Il dit ici, « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui sera dans ton cœur. » La Bible en français courant dit, « Demeureront gravés dans ton cœur. » Comme il est facile de sauter le verset 6 et de passer au verset 7, mais le verset 6 commence la phrase qui se termine au verset 7. Les commandements de Dieu doivent être dans notre cœur. Avant de pouvoir enseigner ou parler, ces commandements doivent demeurer dans nos cœurs. Nous devons connaître ces paroles par cœur. Nous devons les méditer. Nous devons penser à ces choses constamment. Pensez aux commandements de Dieu et les avoir écrits dans nos cœurs est le point central de ce que Dieu le Père et Jésus-Christ désirent quand toute l'humanité connaîtra un jour la vérité. Voilà, ça c'est le but. Voyons cela et reportez-vous, s'il vous plaît, à Jérémie 31, versets 31 et 33. Jérémie 31 et 33. Voilà, Jérémie 31 versets 31 à 33. Il dit, voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les cessai par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Mais voici, verset 33, l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je le serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Le peuple de Dieu aujourd'hui devrait écrire sa loi dans son cœur. Nous sommes son peuple et il est notre Dieu. Dans le royaume de Dieu, tous les peuples auront cette opportunité, mais aujourd'hui seuls les prémices ont cette opportunité. Quand nous vivons les commandements, nous pensons à la loi de Dieu, nous en faisons la méditation, nous devrions nous poser des questions difficiles sur ce que ces commandements signifient pour nous. Par exemple, sommes-nous fidèles dans l'enseignement des commandements sur le mensonge et les faux témoignages, par exemple? Souvent, sans nous en rendre compte, nous nous mentons et à nous-mêmes, dans notre perception de nous-mêmes. C'est ainsi que nous passons notre vie à penser à nous-mêmes d'une certaine manière, sans nous rendre compte des choses essentielles que nous devons changer. Si nous sautons de l'étape de la réflexion en dirigeant nos familles et en guidant nos enfants vont automatiquement le percevoir, parce qu'ils voient que nous sommes, qui nous sommes. Comme je l'ai dit, le baromètre de l'hypocrisie marche très bien chez les ados et les jeunes adultes. Jésus a défini le meurtre comme incluant le fait d'être en colère contre notre frère. Avons-nous un problème de colère? Cherchons-nous à obtenir des choses dont nous n'avons pas vraiment besoin ou que nous ne devrions pas avoir? C'est ce qu'on appelle la convoitise. Le fait d'être aveugle à cela nous empêchera d'aimer nos enfants de la façon dont ils ont besoin et d'être amis, parce que notre esprit se concentrera sur ce que nous voulons. Malheureusement, les hommes, les maris et les pères qui travaillent pour la famille peuvent tomber dans cette piège. Ils peuvent se dire, « Je souviens aux besoins de ma famille en travaillant à plein temps. » Voilà. Oui, peut-être qu'ils fournissent un certain soutien financier à leur famille, mais peut-être qui n'offre pas assez de conseils au niveau émotionnel, mental et spirituel, ce à quoi Dieu s'attend. Les hommes qui se concentrent trop sur le sport et l'avancement au travail et qui ne passent pas de temps avec leurs enfants auront du mal à enseigner quelque chose d'important sur un enseignement biblique, le jour où ce sera crucial de la faire car leur propre comportement sapera leur enseignement. En tant que parents, nous devons d'abord vivre les commandements en les gardant dans nos cœurs avant de tenter les enseigner aux autres. Reportez-vous, s'il vous plaît, à l'Opsomme 119. Le psaume 119 et versets 98 à 100. Donc, le psaume 119, versets 98 à 100. Il dit ici, « Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vaillards, car j'observe tes ordonnances. Nous pourrions passer en revue chaque commandement et voir que lorsque nous y pensons, nous permettons que ces commandements soient écrits dans notre cœur. Nous faisons le premier pas pour apprendre à diriger et à guider nos familles et nos enfants. Quand nous sautons cette étape, quand nous ne confrontons pas ce que nous voyons en regardant dans la loi parfaite de la liberté, comme Jacques écrit dans Jacques 1, verset 25, et quand nous sautons cette étape, nous nous exposons à l'échec. D'avoir les commandements de Dieu dans nos cœurs, c'est agir, c'est jeûner, prier et demander conseil. Cela devrait nous amener à prendre des décisions difficiles pour remettre de l'ordre dans nos priorités. Cela devrait signifier mesurer notre comportement mesurer le changement de notre comportement. Cela devrait signifier faire appel à la puissance de l'Esprit de Dieu pour faire des changements significatifs et mesurables afin que nous puissions être un instrument dans la main de Dieu pour enseigner la génération suivante. Nous avons cette responsabilité. C'est la prochaine étape naturelle selon la Bible de ce que signifie écouter Dieu seul et de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Et nous ne pouvons pas être un peuple qui fait cela et qui ensuite ignore la nouvelle génération qui souffre autour de nous. C'est pourquoi le verset 7 nous donne la prochaine étape. Voilà, la deuxième étape ou le deuxième principe est que nous devons enseigner ces commandements à nos enfants. Donc, revenons, s'il vous plaît, à Deutéronome 6. Revenons à Deutéronome 6 et maintenant, lisez verset 7. Deutéronome 6 et maintenant, verset 7. Il est écrit ici, « Tu les inculquerais à tes enfants. » La Bible en français courant dit, « Tu les enseignerais à tes enfants. » Il est intéressant de noter que l'expression « Tu les inculquerais » ou « Tu les enseignerais » ici en français est un seul mot en hébreu, « shonan ». Shonan, S-H-A-W-N-A-N, Shonan, qui signifie aiguiser. Ce mot vient de la racine pointé vers. C'est de là que les traducteurs essaient de transmettre le sentiment de répéter ou d'avoir un impact sur quelqu'un. C'est un sentiment de travailler à quelque chose et de continuer à travailler, juste à ce que le travail soit fait. Quelques traductions anglaises de ce verset ajoutent le mot « avec diligence », comme dans « enseigner avec diligence ». Quand le mot est utilisé dans le psaume 73, au verset 21, ce n'est pas nécessaire d'y tourner, mais dans le psaume 73, verset 21, il a le sens de percer. Ce n'est ni par chance, ni opportuniste. C'est intentionnel, répété, créatif, en prenant le temps de réfléchir vraiment au style d'apprentissage et à un mode d'enseignement adapté à l'âge de l'enfant et à la meilleure approche pour cet enfant. Ça veut dire des études bibliques régulières en famille, peut-être le vendredi soir pour le sabbat. Cela signifie prendre de recul par rapport aux situations familiales difficiles et à nos propres frustrations, afin de l'utiliser comme un moyen d'apprendre. Cela signifie qu'il faut porter une attention particulière à ce qui se passe dans le cœur et l'esprit de nos jeunes. Apprenant-ils la responsabilité personnelle? Apprenant-ils à dire la vérité, même quand ça fait mal, par exemple? Cela signifie utiliser toutes les occasions que la vie nous offre, les aider à voir Dieu dans la situation et les aider à comprendre que le mode de vie de Dieu fonctionne. Si nous, en tant que l'instrument humain, ne sommes pas correctement préparés par notre propre pensée et méditation personnelle, nous ne serons pas capables de le faire aussi bien que nous le devrions. Et l'enseignement doit aller au-delà des mots. Si nous limitons l'enseignement aux mots prononcés, nous manquerons ce qui est essentiel. Enseigner, c'est rentrer du travail épuisé, mais vous prenez quand même le temps de parler avec votre conjoint et de montrer à vos enfants comment un mari et une femme s'aimaient en faisant un sacrifice personnel. Pas besoin des mots. Enseigner, c'est quand l'ami ou un membre de la famille vous a blessé et que vous choisissez de réagir avec amour, sans rendre le pareil, ou sans colère, afin que vos enfants sachent que c'est cela la voie divine mise en pratique. Votre enfant voit que nous ne nous remplirons pas sur le défensif, l'invitement ou le jugement, mais que nous pardonnons et que nous nous dirigeons vers l'amour envers cette personne malgré tout. Enseigner, c'est appeler votre mère ou votre père pour dire bonjour, afin que vos enfants voient comment respecter les parents. Enseigner, c'est quand une mère célibataire épuisée demande à ses amis de l'encourager à continuer, pour que les enfants sachent qu'ils ne sont pas seuls au monde et qu'il y a une communauté des gens prêts à les aider. Ils sauront et ils peuvent demander de l'aide aux autres et bien sûr à Dieu. Ne vous y trompez pas. Chaque geste que nous posons en tant que parents est surveillé et analysé par nos enfants. Les universitaires appelaient cela les cassettes d'enregistrement des parents. Les cassettes d'enregistrement des parents. Nous en avons tout dans la tête et les recherches indiquent que nous aurons tendance à élever nos enfants comme nous l'avons été parce que nous avons cet enregistrement ancré en nous. En fait, un parent réfléchi peut prendre le temps de trouver et de lire un bon livre sur l'éducation des enfants. Ils ne sont pas souvent alignés à la Bible, bien sûr, afin que il faut regarder bien, mais enfin que ces modèles de comportement enracinés puissent être examinés de façon critique pour déterminer s'ils sont bons ou non. Le point ici est que l'enseignement implique pour sûr l'ouverture de la Bible et sa lecture à nos enfants, mais bien plus encore, c'est ce que Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Un dernier aspect que je voudrais partager sur ce point concernant l'enseignement, c'est que l'enseignement n'impose pas la Bible à nos enfants. C'est particulièrement vrai pour les parents qui viennent tout juste d'arriver à comprendre la voix de Dieu et qui ont des ados plus âgés ou des jeunes adultes. J'ai conseillé à des parents qui ont des enfants plus âgés et qui veulent désespérément que leurs enfants viennent à l'église. Ils voient quelle différence cela pourrait faire s'il apportait des changements dans leur vie. Et je partage le fait que la chose importante qu'ils peuvent faire est de permettre à l'Esprit de Dieu de montrer la sagesse, la perspicacité, la paix et la transformation qui agit d'abord dans la vie de parents. Avec le temps, cet exemple servira de catalyseur pour que les jeunes adultes en viennent à Dieu et l'Église. Cela ne peut pas être forcé, mais les jeunes sont des gens comme tout le monde. Ils peuvent voir où est l'amour, où est la sécurité, où est l'appartenance. Jésus a dit, « À ceci, tout connaîtront que vous êtes mes disciples et vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Je veux lire un extrait de livre intitulé « Le prophète » écrit par un poète lebano-américain nommé Cahil Gibran et publié en 1923. Ma belle-mère a donné ce poème à ma femme et moi et nous l'avons encadré dans notre maison. Je pense qu'il saisit bien la réalité de la transition qui feront tous nos enfants à mesure qu'ils deviendront adultes. Notre rôle en tant que parents est la façon dont nous devrions penser à notre enseignement. Donc, j'ai commencé à citer ce poème. Il dit, « Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont les fils et les filles de l'appel de la vie à elle-même. Il vient à travers vous, mais non de vous. Et bien qu'il soit avec vous, il ne vous appartient pas. Vous pouvez leur donner votre amour, mais non point vos pensées, car ils ont leurs propres pensées. Vous pouvez acquérir leur cœur, mais pas leur âme, car leur âme habite à la maison de demain que vous ne pouvez pas visiter, même pas dans vos rêves. Vous pouvez vous efforcer d'être comme eux, mais ne tentez pas de les faire comme vous, car la vie ne va pas en arrière, ni s'attarde avec hier. Vous êtes les arcs par qui vos enfants, comme des flèches vivantes, sont projetés. L'archeur, avec un A majuscule, l'archeur voit le but sur le chemin de l'infini et il vous tendre sa puissance. pour que ces flèches puissent voler vite et loin. Que votre tension par la main de l'archer soit pour la joie. Car de même qu'il aime les flèches qui volent, il aime l'arc qui est stable. Donc je crois que ça c'est une citation intéressante à considérer concernant l'enseignement de nos enfants. Conclurons ce point en regardant 2 Timothée 3 et versets 14 et 15. 2 Timothée 3 et versets 14 et 15. 3. Demeure dans les choses que tu as apprises et reconnu certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Quand Paul écrit « De qui tu les as apprises », le commentaire des expositeurs souligne que l'implication est qu'il a appris ces choses de sa mère, Eunice, et de sa grand-mère, Louise. Il a appris les saintes lettres et ces lettres étaient ce que nous appelons aujourd'hui l'Ancien Testament. Si vous êtes une mère qui enseigne à votre enfant ou à votre petit-enfant les Écritures, la Bible, vous suivez les traces de Loïs et d'Eunice et cette instruction rendit Timothée sage. Le point à retenir ici est que Timothée était le produit d'une solide éducation biblique. Je suis sûr que pendant ses lectures à l'heure de coucher, pendant ces moments difficiles où Timothée s'est découragé, sa mère et sa grand-mère connaissaient le pouvoir de ce qu'elle transmettait. Timothée a eu un impact puissant sur l'Église. Vos enfants peuvent avoir un impact puissant sur la communauté, leur famille et l'Église aussi. Et cela vient d'abord de la compréhension de le plus grand commandement, de la pensée et de la porte des commandements de Dieu dans notre cœur, puis de l'enseignement répété par les mots, les actions et nos histoires personnelles. Et voilà, on va commencer maintenant avec le troisième point. Ce qui nous amène, comme j'ai dit au troisième point, nous devons parler des commandements de Dieu. Nous devons partager avec eux nos histoires quant à la façon dont Dieu a travaillé dans notre vie. Revenons au Deutéronome 6 maintenant. Deutéronome 6 et verset 7. Pour finir avec ce verset. Deutéronome 6 et verset 7. Et on va finir la phase. Tu les inculquerais à tes enfants et tu en parlerais quand tu serais dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucherais et quand tu te leverais. Souvent, on peut confondre parler ou partager et enseigner. Bien sûr, parler peut mener à l'apprentissage et est une forme d'enseignement, mais ils ne font pas confondre les deux. Parler encore plus que d'enseigner implique le fait d'avoir une conversation. Et dans ce cas, une conversation régulière. Beaucoup d'entre nous savent comment parler. Mais combien d'entre nous savent comment avoir une conversation? Parfois, En tant que parents, nous avons tendance à parler à nos enfants, mais parfois, nous ne les laissons pas, eux, nous parler. Parfois, nous donnons nos ordres et nous exigeons qu'ils se tassent plutôt que d'essayer de comprendre ce qu'ils auraient à dire. Ça ne change pas la nécessité qu'ils obéissent à l'ordre, a besoin de suivre l'ordre, bien sûr, mais nous permet de leur communiquer que nous avons écouté ce qu'ils avaient sur le cœur. La Bible est très claire sur le fait que la conversation englobe tous les moments de la journée où l'on se réveillait. Si nous nous promenons en citant tout le temps la Bible, les passages bibliques, chaque phrase, lorsque nous parlons à nos enfants ou lorsque nous essayons de servir de mentor à un jeune, franchement, cela deviendra fatigant. Les enfants aiment entendre nos histoires personnelles et comprendre le pourquoi des choses et nos réactions. Ainsi, les principes bibliques sont toujours là, même si on ne cite pas textuellement le verset. Reportez-vous, s'il vous plaît, à Deutéronome 11. Deutéronome 11, et maintenant à partir de versets 1 et 2. Deutéronome 11, il dit ici, « Tu aimerais l'Éternel ton Dieu ». Et tu observeras toujours ses préceptes, ses lois, ses ordonnances et ses commandements. Et verset 2 maintenant, reconnaissez aujourd'hui ce que n'ont pu connaître et voir vos enfants. Intéressant, les châtiments de l'Éternel votre Dieu, sa grandir, sa main forte et son bras étendu. Dieu dit clairement qu'il travailler à l'époque avec une certaine génération, mais cela ne veut pas dire que les enfants n'ont pas observé l'impact des grandes œuvres de Dieu sur les enfants de cette génération. Revenons au verset 7, Deutéronome 6 et verset 7, encore une fois. Oh, pardon, au verset 7 de chapitre 11. Verset 7 de chapitre 11, il dit « Car vos yeux ont vu toutes les grandes choses que l'Éternel a faites. » Et plus tard, au verset 18, regardez verset 18, il dit, on peut regarder verset 18, « Dieu les rappelle d'enseigner à leurs enfants et qu'ils ont vu et appris. » Et verset 19, il dit « Vous les enseignerez à vos enfants et vous les en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu coucheras et quand tu t'élèveras. » Donc, nous devrions considérer les choses dont nous avons été témoins dans notre vie. Nous devrions faire la synthèse de ces choses et en parler avec nos enfants. Les femmes ont tendance à faire un meilleur travail de verbalisation et de synthèse, mais cela ne veut pas dire que les hommes ne peuvent pas le faire. Il y a plus de 10 ans, j'ai eu de longues conversations avec un membre de l'Église de Dieu dans une congrégation en Californie. Il avait partagé avec moi des expériences de sa vie très difficiles qu'il avait vécues en tant que fils d'une famille d'agriculture itinérant, qui allait d'un endroit à l'autre en travaillant dans les champs. Je lui ai demandé s'il avait partagé ses expériences avec son jeune fils adulte. Et il m'a dit non, Je ne voudrais pas l'exposer à toute cette douleur, il dit. Je lui ai dit, mais qu'il y avait beaucoup de leçons de vie qu'il avait apprises sur la façon dont Dieu travaillait dans sa vie et dont son fils pouvait apprendre. Mais chaque fois que la conversation a eu lieu, il a dit qu'il ne voulait pas parler de ces choses avec son fils. Quelques années plus tard, cet homme est mort, subitement, d'une crise cardiaque, au début de la 60 ans. Il a 61, 62 ans peut-être. Je me souviens bien que ma femme et moi sommes allés chez lui et que nous avons passé l'après-midi avec des amis et des membres de la famille en deuil et nous soutenir mutuellement. C'est à cette époque, dans ce moment-là, que le fils de cet homme est venu me voir. Nous étions au salon, je crois. Il voulait me montrer quelque chose qu'il avait trouvé dans la maison de son père. Il avait découvert que son père avait écrit un livre sur ses expériences pour le lui donner. Le fils ne l'avait découvert qu'après la mort de son père. C'est un moment à la fois doux et amer, car il avait maintenant une fenêtre sur la vie de son père, mais seulement après sa mort. Ne tendez pas. Partagez les histoires. Partagez l'apprentissage. Rendez-vous vulnérable. Racontez comment vous avez fait des erreurs et ce que vous avez appris. Parlez de bon et de mauvais, de manière adaptée à l'âge de votre enfant, de vos enfants. Dieu travaillera directement dans la vie de nos jeunes, mais ils ont besoin d'attendre nos histoires. Ils ont besoin de comprendre leur histoire. Ils ont besoin de savoir comment l'amour de Dieu, la loi de Dieu et la grâce de Dieu vous ont conduit sur votre chemin. Nous voyons souvent des gens très riches dans le monde, des gens comme Bill Gates ou de Microsoft ou de Mark Zuckerberg de Facebook ou Jeff Bezos d'Amazon. Nous pouvons nous demander ce que c'est que d'être les enfants de ces gens, d'hériter de cette richesse. J'aimerais partager quelque chose d'intéressant à ce sujet. Selon une étude citée dans un article paru en 2018 dans le Globe et Mail, ça c'est une publication au Canada, Globe et Mail, intitulée « Pourquoi les familles riches perdent leur fortune en trois générations ?» Ça c'est les titres. Selon cet article, il dit, et je cite, 90% des familles riches perdent leur patrimoine en trois générations. Il existe même les expressions dans diverses cultures. Aux États-Unis, on dit des manches des chemises aux manches des chemises en trois générations. Au Japon, il dit des rizières aux rizières en trois générations. Les Écossais disent « le père achète, le fils construit, le petit enfant vendre et son fils supplie ». Intéressant. Selon cet même article, et je vais vous citer maintenant, il dit « la clé pour surmonter ce problème de destruction de la richesse » c'est la communication, ce qui signifie les discussions, et je cite maintenant, les discussions familiales et essayer d'être très proactive avec la prochaine génération plutôt que réactive. Ça, c'est une citation. Frères et sœurs, nous avons une vérité précieuse qui a plus de valeur que l'or. Et cette vérité peut si facilement être perdue si nous n'avons pas de discussions familiales, des réunions familiales, et si nous n'engagions pas la prochaine génération de la façon proactive. Une conversation ouverte sur des choses peut-être difficiles, avec un libre échange des idées, mais où chacun a la chance de voir comment revenir à la parole de Dieu comme fondement de notre pensée. C'est une question de quantité de temps et de qualité de temps. C'est une question d'écoute, parce que c'est ce que s'exige une bonne conversation. Cela signifie littéralement faire des promenades ensemble, c'est-à-dire être là quand nos enfants s'endorment. Cela signifie être là quand nos enfants se réveillent. Cela signifie des repas familiaux réguliers pour partager les conversations de la journée. C'est alors que vous vous asseyez dans votre maison. Vivre le commandement, l'enseigner et le partager. L'éducation des enfants en deux versets simples de la parole de Dieu. Agissons de la sorte dans nos familles et nos collectivités, que nous soyons parents ou non, car nous pouvons appliquer certains de ces principes avec des jeunes de l'Église qui ne sont pas forcément nos enfants. Engageons-nous à soutenir la prochaine génération. Transmettons la précieuse vérité de la parole de Dieu à la génération suivante.